toutes les traditions de la terre.
Et je vis Salvador, Salvador da Bahia de Todos os Santos, la Rome nègre, et ses 365 églises qui se profilent sur la ligne des collines, ce quart le long de la baie, et où on honore les dieux du panthéon africain. Amparo connaissait un artiste naïf qui peignait de grands tableaux sur bois envahis de visions bibliques et apocalyptiques, éclatant comme les miniatures médiévales, avec des éléments coptes et byzantins. Il était naturellement marxiste. Il parlait de la révolution imminente, passait ses journées à rêver dans les sacristies du sanctuaire de Nosso Senhor do Bom Fim, triomphe de l'aurore vacui, écailleuse d'ex-voto qui pendait du plafond et incrustait les murs, un assemblage mystique de cœurs en argent, prothèses de bois, jambes, bras, images de téméraire sauvetage au gros de rutilantes tempêtes, trombes marines, maelstroms. Il nous conduisit dans la sacristie d'une autre église, pleine de grands meubles tout odorants de jacaranda. « Ce tableau représente qui ?» demanda Amparo au sacristain. « Saint-Georges ?» Le sacristain nous regarda avec complicité. « On l'appelle Saint-Georges, et il vaut mieux l'appeler comme ça, sinon le curé pique une colère. Mais c'est Oxossi. » Le peintre nous fit visiter deux jours durant des nefs et des cloîtres, à l'abri de façades décorées comme des plats en argent désormais noircis et usés. Nous étions accompagnés par des serviteurs mal dégrossis et claudiquants. Les sacristies étaient malades d'or et d'étain, de lourds caissons, de cadres précieux. Dans des châsses de cristal trônaient le long des murs des images de saints grandeur nature, ruisselant de sang, avec leurs plaies ouvertes semées de gouttes de rubis, des Christs tordus de souffrance avec leurs jambes rouges d'hémorragie. Dans l'éclair d'or d'un baroque tardif, je vis des anges aux visages étrusques, des griffons romans et des sirènes orientales qui faisaient des apparitions sur les chapiteaux. J'allais par des rues anciennes sous le charme de leurs noms qui semblaient des chansons. Rua da Agonia, Avenida dos Amores, Travessa de Chico Diabo. J'étais tombé à Salvador à l'époque où le gouvernement, ou qui en faisait office, assainissait la vieille ville pour en expulser les milliers de bordels. Mais on était encore à mi-chemin. Au pied de ces églises désertes et lépreuses, empêtrées dans leur faste, s'étendaient encore des ruelles malodorantes, où grouillaient les prostituées nègres de 15 ans, de vieilles marchandes de sucreries africaines, accroupies le long des trottoirs avec leurs casseroles sur le feu, des bancs de maquereaux qui dansaient entre les rigoles des eaux usées au son des transistors du bar voisin. Les anciens palais des colonisateurs, surmontés d'armoiries maintenant illisibles, étaient devenus des maisons de tolérance. Le troisième jour, nous accompagnâmes notre guide au bar d'un hôtel de la ville haute, dans la partie déjà restructurée, au milieu d'une rue pleine d'antiquaires de luxe. Il devait rencontrer un monsieur italien, nous avait-il dit, qui allait acheter, et sans discuter le prix, un de ces tableaux de 3 mètres sur 2, où de pullulantes troupes angéliques s'apprêtent à livrer une bataille finale contre les autres légions. Ce fut ainsi que nous connûmes monsieur Aglié. Impeccablement vêtu d'un costume 3 pièces bleu, à fines raies blanches, malgré la chaleur, lunettes à monture d'or sur un visage au teint rosé, cheveux argentés. Il baisa la main d'Amparo, comme qui ne connaîtrait pas d'autre manière de saluer une dame, et commanda du champagne. Le peintre devait s'en aller. Aglié lui remit une liasse de traveler's check, dit de lui envoyer l'œuvre à l'hôtel. Nous restâmes à converser. Aglié parlait correctement le portugais, mais comme quelqu'un qui l'aurait appris à Lisbonne, ce qui lui donnait encore plus l'allure d'un gentilhomme d'autrefois. Il s'enquit de nous, fit quelques réflexions sur la possible origine genevoise de mon nom, se montra curieux de l'histoire familiale d'Amparo, mais, qui sait comment, il avait déjà déduit que ses origines étaient de Recife. Quant à la sienne d'origine, il demeura dans le vague. « Je suis comme un d'ici, dit-il. D'innombrables races se sont accumulées dans mes gènes. » Mon nom est italien, d'une vieille propriété d'un ancêtre, oui, sans doute noble, mais qui y prête attention au jour d'aujourd'hui. Je suis au Brésil par curiosité. Toutes les formes de la tradition me passionnent. Il avait une belle bibliothèque de sciences religieuses, me dit-il, à Milan, où il vivait depuis quelques années. Venez me trouver à votre retour. J'ai beaucoup de choses intéressantes, depuis les rites afro-brésiliens jusqu'au culte d'Isis, dans le bas-empire. J'adore les cultes d'Isis, dit Amparo, qui souvent par orgueil aimait à jouer les poseuses. Vous savez tout sur le culte d'Isis, j'imagine. Aglié répondit avec modestie, « Seulement le peu que j'en ai vu. » Amparo chercha à regagner du terrain. « N'était-ce pas il y a 2000 ans ?»«
Je ne suis pas jeune comme vous, » sourit Aglié.
« Comme Cagliostro, plaisantai-je. N'est-ce pas lui que, passant une fois devant un crucifix, on entendit s'adresser en murmurant à son valet, « Je lui avais bien dit à ce juif d'être sur ses gardes ce soir-là, mais il n'a pas voulu me prêter attention. »
Aglié se raidit. Je craignis que la plaisanterie ne fût lourde. Je fis mine de m'excuser, mais notre hôte m'interrompit d'un sourire conciliant.
Cagliostro était un mystificateur, parce qu'on sait fort bien quand et où il est né. Et il n'a même pas été capable de vivre longtemps. Il se vantait.
Je le crois sans mal.
Cagliostro était un mystificateur, répéta Aglié. Mais cela ne veut pas dire que des personnages privilégiés ayant pu traverser de nombreuses vies n'aient pas existé et n'existent pas. La science moderne en sait si peu sur les processus de sénescence qu'il n'est pas impensable que la mortalité soit un simple effet d'une mauvaise éducation. Cagliostro était un mystificateur, mais pas le comte de Saint-Germain. Et quand il disait avoir appris certains de ses secrets chimiques auprès des anciens Égyptiens, il ne se vantait peut-être pas,
mais lorsqu'il citait ses épisodes, personne ne le croyait, alors par courtoisie envers ses interlocuteurs, il faisait semblant de plaisanter.
« Mais vous, vous faites semblant de plaisanter pour nous prouver que vous dites la vérité, » dit Amparo.
« Non seulement vous êtes belle, vous êtes extraordinairement perceptive, » dit Aglié.
« Mais je vous conjure de ne pas me croire. Si je vous apparaissais dans l'éclat poussiéreux de mes siècles, votre beauté en fanerait tout d'un coup, et je ne pourrais me le pardonner. »
Amparo était conquise, et moi j'éprouvais une pointe de jalousie. J'amenai la conversation sur les églises et sur le Saint-Georges Oxossi que nous avions vu. Aglié dit que nous devions absolument assister à un camp d'omblée.
N'allez pas où on vous demande de l'argent. Les lieux vrais sont ceux où on vous accueille sans rien vous demander, pas même de croire.
D'assister avec respect, ça oui. Avec la même tolérance de toutes les croyances qui leur fait aussi accepter votre mécréance.
Certains Pailly ou Mae de Santo, allez voir, semblent à peine sortis de la case de l'oncle Tom, mais ils ont la culture d'un théologien de la Grégoriana.
Amparo posa une main sur la sienne. « Vous nous y emmenez, dit-elle. J'y suis allé une fois, il y a des années, dans une tente de Umbanda, mais j'ai des souvenirs confus, je me rappelle seulement un grand trouble. »
Aglié parut gêné par le contact, mais il ne s'y déroba pas. Seulement, comme je le vis faire par la suite dans ses moments de réflexion, de l'autre main il tira de son gilet une boîte en or et argent, peut-être une tabatière ou une boîte à pilules, au couvercle orné d'une agate. Sur la table du bar brûlait une petite chandelle de cire, et Aglié, comme par hasard, en approcha la boîte. Je vis qu'à la chaleur, l'agate ne se discernait plus. Et à sa place apparaissait une miniature très fine, vert bleu et or, qui représentait une bergère avec une corbeille de fleurs. Il la retourna entre ses doigts avec une dévotion distraite, comme s'il égrenait un rosaire. Il s'aperçut de mon intérêt, sourit et reposa l'objet.
Trouble. Je ne voudrais pas, ma douce dame, qu'en plus de réceptive, vous fussiez exagérément sensible. Qualité exquise, lorsqu'elle s'associe à la grâce et à l'intelligence, mais dangereuse pour qui va en de certains lieux sans savoir quoi chercher et ce qu'il trouvera. Et par ailleurs, ne me confondez pas l'Umbanda et le camp d'omblée. Celui-ci est complètement autochtone, afro-brésilien, comme on dit d'habitude, tandis que celui-là est une fleur très tardive, née de la grève des rites indigènes sur la culture ésotérique européenne, sur une mystique que je dirais templière.
Les templiers m'avaient de nouveau retrouvé. Je dis à Aglié que j'avais travaillé sur eux. Il me regarda avec intérêt.
Curieuse conjoncture, mon jeune ami. Ici, sous la croix du Sud, trouver un jeune templier.
Je ne voudrais pas que vous me considériez comme un adepte. Par pitié, monsieur Casaubon,
si vous saviez quelle canaillerie il y a dans ce domaine.
Je sais, je sais.
Et alors? Mais il faut nous revoir, avant que vous ne repartiez. nous nous donnâmes rendez-vous pour le lendemain. Nous voulions tous les trois explorer le petit marché couvert le long du port. Là-bas, nous nous trouvâmes en effet le matin suivant. Et c'était un marché aux poissons, un souk arabe, une fête patronale qui aurait proliféré avec la virulence d'un cancer, une lourde envahie par les forces du mal, où les magiciens de la pluie pouvaient faire bon ménage avec des capucins extatiques et stigmatisés, au milieu de sachets propitiatoires avec prières cousues dans la doublure, menottes en pierre dure qui faisaient la figue, cornes de corail, crucifix, étoiles de David, symboles sexuels de religion préjudaïque, hamac, tapis, sac, sphinx, sacré-cœur, carquois bororo, collier de coquillages. La mystique dégénérée des conquérants européens se fondait avec la science qualitative des esclaves. De même que la peau de chaque personne présente racontait une histoire de généalogie perdue. « Voilà, dit Aglier, une image de ce que les manuels d'ethnologie nomment le syncrétisme brésilien. Mot laid selon la science officielle. » Mais dans son sens le plus haut, le syncrétisme est la reconnaissance d'une unique tradition qui traverse et nourrit toutes les religions, tous les savoirs, toutes les philosophies. Le sage n'est pas celui qui discrimine, c'est celui qui réunit les lambeaux de lumière, d'où qu'ils proviennent. Et donc, ils sont plus sages, ces esclaves ou descendants d'esclaves, que ne le sont les ethnologues de la Sorbonne. Vous me comprenez au moins, vous, ma belle dame? « Pas avec l'esprit, dit Amparo, avec l'utérus. » Je m'excuse, j'imagine que le comte de Saint-Germain ne s'exprimait pas de cette façon, je veux dire que je suis né dans ce pays, et même ce que je ne sais pas me parle quelque part, ici, je crois. » Elle se toucha le sein.
« Comment, dit-il, ce soir-là, le cardinal Lambertini a la dame parée d'une splendide croix de diamant sur son décolleté ? Quelle joie de mourir sur ce calvaire.
Et ainsi aimerais-je écouter ces voix. À présent, il faut que vous m'excusiez, et tous les deux. Je viens d'une époque où l'on se serait damné pour rendre hommage au charme. Vous voudrez rester seul? Nous garderons contact.
Il pourrait être ton père, dis-je à Amparo, alors que je l'entraînais au milieu des étalages de marchandises. Et même mon bisaïeul. Il nous a fait comprendre qu'il avait au moins 1000 ans. Tu es jaloux de la momie du pharaon?
Je suis jaloux de qui te fait allumer une petite lampe dans ta tête.
Que c'est beau! Ça, c'est de l'amour.